Chapitre 24. En cas de pénurie de nourriture, et si les jeunes ont faim, il arrive même qu'ils s'entre-dévorent. Tiré de Spiders and Their Kin, Herbert W. et Lorna R. Levy, St. Martin's Press, 2002. Le garçon revint. Par un après-midi radieux, il frappa sagement à la porte de derrière, alors elle l'embaucha pour fendre du bois. Il s'activa pendant plus d'une heure, assez longtemps pour enlever sa chemise et découvrir son torse maigrichon, ses côtes tragiquement décharnées. Après cela, elle lui prépara une omelette au fromage avec 4 épaisses tranches de pain grillé et 2 verres de lait. Il mangea tout, sauça l'assiette avec le pain pour récupérer jusqu'à la dernière goutte de graisse de l'omelette et se lécha les doigts un par un. Ils passèrent aux travaux d'intérieur. Elle lui montra comment coincer du petit bois dans les châssis des fenêtres pour plus de sécurité. Puis, elle l'envoya à la cave chercher son carton de décoration de Noël. Il remonta avec le carton dans les bras et une grosse araignée domestique brune sur l'épaule. Lorsque Rita essayait de la chasser d'un revers de la main, il s'offusqua et insista pour s'asseoir dans la cuisine et jouer avec la bestiole comme avec un animal de compagnie. « Les araignées ne font pas de mal », lui expliqua-t-il. « Elles tuent les insectes, pas les gens. Et puis elles sont vraiment cool. T'as déjà goûté une toile d'araignée ?» Elle le laissa avec son animal et accrocha des clochettes de Noël aux poignées de sa porte d'entrée et de sa porte de derrière, l'alarme du pauvre. Il lui restait quelques dernières tâches à accomplir, mais d'abord, elle avait 2 courses à faire. « Eh bien, mon garçon, tu viens ou non ?»« On va où ?» demanda-t-il en se levant d'un bond. « À la quincaillerie. » Elle enfila tant bien que mal son manteau, son chapeau, ses gants. Le garçon ne portait qu'une fine chemise, alors elle l'envoya à l'étage dans la chambre de Joseph. Il revint avec une chemise à carreaux qui lui tombait presque aux chevilles. Elle fouilla dans le placard de l'entrée jusqu'à ce qu'elle trouve un des vieux manteaux bleu marine de sa mère. Cela lui allait mieux que les vêtements de son frère. Ils sortirent dans l'allée et le garçon s'arrêta à côté du garage, l'air d'attendre quelque chose. « Ne sois pas ridicule, mon garçon. Ce n'est pas pour rien que le bon Dieu nous a donné des jambes. »« Ce n'est pas pour rien non plus qu'il nous a donné des voitures, » rétorqua le garçon et, surprise, elle pouffa. « J'ai vendu la mienne il y a près de 10 ans, » lui expliqua-t-elle. « À mon âge, j'ai déjà assez de mal comme ça à marcher droit, alors conduire. » Elle s'engagea dans la descente et le garçon lui emboîta le pas. Comme elle était trop lente pour lui, il se mit bientôt à folâtrer devant et sur le côté, prenant de l'avance, revenant en arrière, comme le font les jeunes garçons, à la manière des chiots. Il donnait des coups de pied dans des tas de boue, sautait dans les flaques, crottait les vêtements qu'elle lui avait prêtés. Cela n'ennuyait pas Rita. Il était normal qu'un beau et jeune garçon comme lui joue, saute et se crotte. Mais il n'était pas normal qu'il passe son temps avec une vieille femme. Il fallut près d'une heure à Rita pour rejoindre la quincaillerie de la ville. Le garçon entra avec elle, mais une fois à l'intérieur, elle le perdit de vue, car elle devait se concentrer. Elle avait besoin de cadenas. 3. Quelque chose de solide qui ne casserait pas. Elle n'en revint pas de voir le prix des cadenas, les mains tremblantes sur son sac. En fin de compte, elle n'en prit que 2, et cela lui coûtait déjà assez comme ça. Quand elle eut terminé, elle découvrit le garçon dehors qui l'attendait. « Et maintenant ? L'épicerie. Tu pourras manger, jeune homme. » Elle se dirigea clopin-clopant vers la supérette. Le garçon gambadait à ses côtés. Mel tenait la caisse. Levant les yeux à l'entrée de Rita, il la salua d'un signe de la main. Lorsqu'il aperçut le garçon, son visage se figea, sa main retomba sur le côté, mais il ne dit rien. Il semblait sur ses gardes. Cependant, vigilant. « Je veux des Froot Loops. » dit le garçon. Trop cher. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, mon enfant. J'achète de la nourriture, pas du sucre soufflé. Si tu veux des Froot Loops, tu t'en achètes. Le garçon partit lorgner les barres chocolatées. Rita regarda les œufs avec des yeux ronds en se demandant depuis quand tout était devenu aussi cher. Il lui restait 12 dollars. Il fallait que ça lui fasse au moins une semaine. Mais il était évident que le garçon avait besoin de manger davantage. Elle préparerait plus d'omelettes en battant les œufs avec de l'eau pour rallonger la sauce. Elle pouvait aussi fabriquer ses pâtes elle-même. Elle le faisait tout le temps à une époque. De grosses pâtes aux œufs poêlées avec les tomates en boîte qu'elle avait à la cave constitueraient un excellent repas. Elle aurait voulu pouvoir acheter du jus d'orange. Les vitamines ne feraient pas de mal au garçon et ça avait un bon petit goût acidulé sur la langue. En fin de compte, elle se décida pour du lait en poudre, ce qui ferait probablement faire la grimace au garçon, mais après toutes ces années, c'était bien assez bon pour elle. Les saucisses étaient exclues, le bacon aussi. Elle trouva le pain périmé et quelques pommes farineuses dans le coin des bonnes affaires. Elle transformerait les pommes en compote, grillerait le pain. Dans le même esprit, elle trouva du bœuf à moitié prix et des carottes et des oignons moisis, parfaits pour un ragoût. Tout de même, ça lui fendait le cœur de compter chacune de ces précieuses pièces et de ne recevoir en retour que 2 sacs. Elle regarda Mel avec espoir, attendant qu'il passe dans la réserve pour accomplir leur petit manège. Au lieu de cela, il observait le garçon, toujours au rayon des confiseries. « Un ami à vous ?» demanda-t-il à Rita d'un air pincé. « Il m'a aidé à fendre du bois. » Cette réponse fit perdre un peu de sa raideur à Mel, qui désormais semblait juste mal à l'aise. « Je lui confierai pas de travaux d'intérieur, » dit-il dans sa barbe, mais tout de même suffisamment fort pour qu'elle soit certaine que le garçon à l'ouïe fine avait entendu. « Occupez-vous de vos affaires, Mel. Je m'occuperai des miennes. » Elle attrapa les 2 sacs, éprouva quelques difficultés à les descendre du comptoir et Mel eut l'élégance de rougir d'un seul coup. « Pardon, Rita, je vais vous aider. » Mais elle n'avait plus envie d'avoir affaire à des gens comme lui. Elle se dirigea toute seule vers la sortie. « Mon garçon » appela-t-elle, parce qu'elle n'aimait pas prononcer le nom de Scott, jugeant qu'il ne lui allait pas mieux que la vieille chemise de son frère. « On a fini !» Le garçon s'approcha docilement, la suivit dehors. Il avait les mains dans les poches. Elle dut se racler la gorge 3 fois avant qu'il comprenne l'allusion et prenne l'un des sacs. Puis, de nouveau en silence, ils gravirent péniblement la côte. À 1/4 du chemin, Rita dut s'arrêter pour reprendre son souffle. Son estomac grondait, protestait contre son petit déjeuner frugal, car elle avait donné son pain au garçon. À son âge, elle rapetissait d'année en année, de toute façon. Le gamin avait besoin de calories pour grandir. Elle leva les yeux et le découvrit en train de manger un Kit Kat. « Tu en veux ?» demanda-t-il poliment, juste avant qu'elle l'attrape par l'oreille. « Où as-tu pris cette friandise ?»« Aïe ! Réponds-moi, mon garçon !»« Tu l'as payée ? Tu es passé à la caisse ? Tu as compté tes sous pendant que je ne regardais pas ? Tu l'as volée ? C'est ça ? Je voulais seulement t'aider. Tu n'as presque pas d'argent. Et lui, il a ce grand magasin tout plein de nourriture. Et puis c'est quoi, une petite barre chocolatée ? Il s'en apercevra même pas. Montre-moi tes poches. » Elle lâcha son oreille le temps de le forcer à retourner ses poches. Il avait 2 barres chocolatées, 1 sachet de cacahuètes et 3 paquets de bœuf séché. Elle secoua la tête avec dégoût. « Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire, » dit-elle en ramassant les sacs pour redescendre la côte au pas de charge. « Tu vas où ?» demanda le garçon en s'efforçant de la suivre. Quand Rita était en colère, elle avait encore du ressort. Or, dans le cas présent, elle était sacrément en colère. « Je compte bien te ramener au magasin, jeune homme, où tu rendras tout à Mel, et ensuite tu balayeras sa réserve pour t'excuser. » Le garçon s'arrêta. « Pourquoi ? Il te faut à manger. C'était pour t'aider. Tu vois, je suis utile. Tu n'aimes pas le bœuf séché ? Montre-moi ce que tu veux. J'en prendrai la prochaine fois. Mais il faudra que tu continues à acheter des œufs. Ils sont trop gros pour que je les vole. » Elle s'arrêta, rien que pour pouvoir le foudroyer du regard. « C'est mal de voler. J'ai vu tes placards, ils sont vides. Je peux t'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, exactement !» répondit le garçon dont le regard s'illumina. Elle s'avisa qu'elle n'avait peut-être pas choisi le meilleur proverbe. « Mon enfant, s'enrichir aux dépens d'autrui est un péché. Je suis pauvre, mes placards sont vides, mais je suis forte et intelligente. Je m'en sortirai et sans tomber dans la délinquance. Maintenant, en avant !» Elle lui donna un coup de pied dans la jambe pour le pousser à avancer. Il la regarda d'un air boudeur et fila, l'air plus perplexe que fâché. Mais au pied de la côte, il se rebella et refusa d'entrer dans le magasin. Elle lui reprit tous les articles, entra elle-même et les posa sur le comptoir. « Toutes mes excuses, » dit-elle à Mel, « ça ne se reproduira pas. Il va vous attirer des ennuis, » murmura Mel, les bras croisés sur la poitrine. Rita le regarda avec hauteur. Il dit qu'il essayait seulement de m'aider. Elle lui lança un dernier regard noir, puis sortit de la supérette d'un pas traînant, avec toute la dignité dont une vieille femme à moitié infirme était capable. Le garçon s'était réfugié sur le trottoir d'en face. Il la suivit dans la côte, l'air de plus en plus renfermé. Ils approchaient de la maison de Rita lorsqu'il finit par éclater. « C'était stupide. Tu es stupide. C'était mes friandises. Je les avais gagnées. Tu n'avais pas le droit de les rendre. Il y a des règles. Non, non, il n'y en a pas. Tu connais rien à rien. » Alors il prit son précieux sac de course et le jeta par terre. Elle entendit les œufs se casser, vit les jaunes commencer à se répandre dans le sac. « C'était bien la bêtise à faire. Maintenant, nous allons avoir faim tous les deux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux !» rugit le garçon. Il leva le bras. Elle crut qu'il allait la frapper, lui donner un coup de poing au visage. Mais au dernier moment, il laissa retomber son bras, tourna les talons et s'enfuit. Elle le regarda s'éloigner, ses jambes fines qui martelaient le sol tandis qu'il gravissait la butte vers la demeure victorienne délabrée. Elle aurait voulu être en colère contre lui, mais elle se demandait surtout ce qu'il attendait là-haut. Une autre minute s'écoula, puis elle se pencha péniblement, ramassa le sac, le porta avec précaution à deux mains. Elle arriva dans la cuisine, où, petit à petit, à l'aide d'une spatule en caoutchouc, elle transvasa les jaunes baveux dans un bol en verre. Elle fit la seule chose qu'elle savait faire, sauver ce qui pouvait l'être. Chapitre 25. Le Burgerman mijote quelque chose. Je le sens qu'il m'observe quand il croit que je ne vais pas le remarquer. Je suis en train de regarder la télé, par exemple, et il arrive, il s'arrête sur le pas de la porte et il me regarde fixement. Ensuite, il se gratte les couilles et disparaît. Il passe beaucoup de temps seul en ce moment, en vadrouille, enfermé dans sa chambre. Parfois, je devine son humeur morose, et parfois, elle correspond à la mienne. Nous sommes comme père et fils, méprisants l'un envers l'autre. Il ne me touche plus, je suis trop vieux. Je ne peux plus aller chercher pour lui non plus. Sur la plupart des aires de jeu, un adolescent blafard éveille automatiquement les soupçons. Les gens se disent que je suis peut-être une source d'ennui, un dealer ou un petit délinquant. S'ils se doutaient. Je suis encore petit. Le Burgerman ne me nourrit pas beaucoup. Tentative désespérée pour retarder la puberté, j'imagine. Il y a encore l'argent des films, après tout. Mais ça non plus, ça n'est plus ce que c'était. Dans le porno, c'est avec les enfants qu'on se fait vraiment du blé. Pas avec des ados émaciés, le torse creux. Depuis quelque temps, il parle d'un examen de passage. Fiston, il y a un moment dans la vie de chacun où il faut commencer à penser à l'avenir. Tu grandis, mon garçon. Tu te prépares pour ton examen de passage. Je ne sais pas ce qu'il entend par examen de passage. Certainement rien à voir avec une remise de diplôme en toge universitaire. Ni avec un aller simple pour la fac. Que croit-il que je vais faire? Entrer dans une école de commerce? Trouver un emploi? M'installer dans un village de mobilhomes avec tous les pervers? Il n'y a qu'une seule chose que je sache faire. À quoi ressemble la cérémonie de remise des prix pour ça? Je sais que ces derniers temps, quand je rentre à la maison, ma main se fige après avoir glissé la clé dans la serrure. Je me demande si, quand je la tournerai, elle marchera encore. Et si c'est le cas, je me demande si, quand je pousserai la porte, le Burgerman sera encore là. parce que je commence à piger le truc, vous voyez. Toute vie doit avoir une valeur. Il y a environ 2 ans que la mienne ne vaut plus rien. Maintenant, je suis comme le vieux canasson de l'écurie, incapable de courir, incapable de se reproduire, mais qui coûte une fortune en entretien. Vous savez, celui qu'on finit par envoyer à la boucherie. Le burgerman espère sans doute que je vais m'enfuir. J'y ai songé, vous pouvez me croire. Mais après toutes ces années, je ne sais pas où j'irai et ce que je ferai. C'est la seule vie que je connaisse. Le burgerman est la seule famille qu'il me reste. Peut-être qu'il va me planter là et disparaître. Il y a évidemment d'autres possibilités. La nuit dernière, le burgerman est entré dans ma chambre et s'est posté au pied de mon lit. Il m'a regardé fixement. J'ai continué à respirer régulièrement, mais je l'observais entre mes paupières. Je me demandais s'il avait un couteau, un pistolet. Je me demandais ce que je ferais s'il attaquait. Le burgerman parle d'examen de passage. Il faut que je reste sur mes gardes. Chapitre 26. À la sensation de brûlure succède généralement une douleur intense. Les tissus touchés localement par le venin sont détruits et se détachent peu à peu, laissant les muscles sous-jacents à découvert. Tiré de Biology of the Brown Recluse Spider, Julia Maxine Height, William J. Gladney, J. L. Lancaster Jr. et W. H. Whitcomb, Service d'entomologie, Département d'agriculture, Université d'Arkansas, Fayetteville, mai 1966. Harold adora la chaussure. « La vache, tu sais ce que c'est ? » s'exclama-t-il. « Waouh, une limeur ! Où t'as pris ça ? Tu sais ce que ça représente ?» Kimberly ignorait ce qu'était une chaussure limeur et ce que représentait le fait d'en posséder une. C'était pour cette raison qu'elle avait demandé à Harold de descendre de l'Olympe du contre-terrorisme pour le petit bastion de la brigade criminelle au 2e étage. Les agents du contre-terrorisme avaient horreur de se déplacer. Après tout, ils disposaient d'un étage entier, avec une demi-douzaine de télés qui diffusaient Fox News à plein tube. La brigade criminelle, quant à elle, avait des cartons, quelques plans et 2-3 rouleaux de ruban jaune pour scènes de crime éparpillées çà et là pour la déco. Par chance, Harold avait été intrigué par sa demande d'aide. C'était un passionné. Une des choses que Kimberly préférait chez lui. Kimberly s'était adjugée un bureau vacant près d'une rangée de fenêtres et elle y avait posé la chaussure de randonnée marron foncé sur une feuille de papier de boucherie. Sur le côté, elle avait disposé son jeu d'instruments métalliques. Lime, pince, racloir, ribambelle de pique de taille variée. Bien sûr, elle aurait pu opter pour les bâtonnets d'Esquimaux qu'affectionnent tant de techniciens de scènes de crime, mais ça n'aurait franchement pas eu l'air aussi classe. Elle avait terminé un premier examen de la chaussure et pris note de la pointure, de la couleur, de la marque, du dessin des semelles et des traces de surface. Elle avait relevé qu'il s'agissait d'une chaussure d'homme, du 42, présentant une forte usure de la face interne du talon et du gros orteil, et semblant composée d'une empeigne 100% cuir et d'une semelle en caoutchouc. Le lacet était marron, mêlé de fil vert foncé. Elle avait pris une douzaine de clichés pour garder un témoignage de son état d'origine. Ensuite, elle avait commencé à détacher petit à petit du dessous de la chaussure la boue séchée, les matières végétales et autres débris, et placer quelques échantillons dans des tubes à essai à envoyer au labo du FBI. Le reste serait laissé dans le papier de boucherie qui serait replié, glissé dans un sac à pièces à conviction en papier craft et conservé en magasin en vue de futurs examens. Enfin, elle fera un moulage de la semelle dans du plâtre dentaire coloré afin de pouvoir le comparer plus tard avec des traces retrouvées sur une scène de crime. Dans l'avis du collecteur d'indices, tout est question de méthode, de minutie et de patience exercée. Trier, analyser, préserver, le tout en prévision d'un futur hypothétique. Mais Kimberly, cette ancienne, n'avait pas envie d'attendre. Elle voulait des réponses tout de suite. Harold, ancien naturaliste et employé de l'Office national des forêts, semblait sa meilleure chance. C'est spécial, une chaussure Limmer ? Se risqua-t-elle à demander en se redressant, un pic métallique toujours dans la main droite. Tu parles ? C'est la Rolls des chaussures de randonnée, fabriquée par un atelier familial dans le New Hampshire. Pas le truc que tu trouves dans le premier Walmart venu. C'est une chaussure de passionné. Un mordu de randonnée, c'est sûr. Cette réponse éveilla l'attention de Kimberly. La Rolls, qu'est-ce que ça implique ? Quantité limitée ? Possibilité de retrouver facilement le propriétaire ? Eh bien, répondit Harold d'une voix nonchalante, en lui prenant le pic pour s'attaquer lui-même à la chaussure. De mon temps, les Limmer étaient réalisés sur mesure. Mais si je me souviens bien, ils ont passé un accord avec une autre boîte pour la fabrication d'une petite série en prêt-à-porter. Alors il me semble que la vraie question, c'est de savoir à quel genre de chaussures nous avons affaire ici. Du fait main sur mesure ou du prêt-à-porter fabriqué à la chaîne. Il enfila une paire de gants en latex, souleva la chaussure et la fit tourner entre ses mains. Soupèse-moi le machin. Un bon kilo, facile. Cambrayon en nylon, intercalaire double densité, semelle Vibram, belle bête. Si ces chaussures sont tellement extraordinaires, comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler ? Je suis randonneuse. C'était quand la dernière fois que tu as fait Lady ? Demanda Harold d'un air narquois. Lady, murmura-t-elle en se creusant la tête. L'Appalachian Trail ? C'est en projet. Voilà, tu fais des excursions d'une journée. Ça, ce sont des chaussures de pro. Kimberly proféra à mi-voix une remarque bassement désobligeante, mais elle ne pouvait pas le contredire. Donc, si j'appelais Limmer, il se pourrait qu'il sache me dire qui a acheté cette chaussure. Peut-être, surtout si c'est du sur-mesure. Tu permets ? Le pic métallique toujours à la main, Harold l'agitait devant la semelle de marche en caoutchouc. Kimberly haussa les épaules et la lui abandonna. Elle observait cette chaussure depuis une heure maintenant et le seul résultat pratique, c'était une migraine. Elle partit chercher un verre d'eau. Lorsqu'elle revint, Harold s'était approché une chaise et il s'attaquait aux choses sérieuses. Beaucoup de minéraux, expliqua-t-il en passant au crible les fragments friables de boue séchée. Du quartz, du feldspath, même un peu d'améthyste. T'as une lampe de poche ? Kimberly prit sa mallette de terrain sous son bureau et en sortit une lampe. Loupe, pépia Harold. Elle sortit une loupe. Verre d'eau. Elle fit de gros yeux, mais alla docilement chercher de l'eau. Harold ne la but pas, mais à l'aide d'une pipette, en versa quelques gouttes dans un tube à essai avant d'ajouter un morceau de boue, puis encore de l'eau. Il transforma la boue en vase en la faisant tourbillonner dans le tube à essai et la renversa avec application dans un deuxième tube. « Tu vois ça ? Toutes ces minuscules particules brillantes ?» demanda-t-il en brandissant le premier tube à essai, désormais vidé de son eau saumâtre. « Il s'agit d'un sol à forte teneur en métaux et minéraux. Tu as un microscope ?» Kimberly parut interloquée. « Harold, on relève les indices, on ne les analyse pas. Personne n'a de microscope. Moi, j'en ai un. Quoi ? Eh, on ne sait jamais, expliqua-t-il comme pour se défendre. Ça peut servir. » Kimberly ne voyait vraiment rien à répondre à cela. Elle l'envoya à l'étage chercher son microscope. À son retour, ils rincèrent l'échantillon minéral une deuxième fois et préparèrent une lamelle. C'était vrai finalement qu'un microscope, ça peut servir. De l'or, murmura finalement Harold. Surtout du feldspath et du quartz, mais aussi une infime quantité d'or. Vraiment ? Bien sûr. Après tout, la première ruée vers l'or américaine a eu lieu ici même, en Géorgie, en 1829. Harold se redressa, retourna à la chaussure et en détacha d'autres débris. Dans la forêt nationale de Chattahoochee. D'où tu crois que vient l'expression « il y a de l'or dans cette montagne » Je m'étais jamais posé la question. Tu devrais aller à Dahlonega, un de ces quatre. Faire un tour dans le musée, visiter les anciennes mines. Il y a même un hôtel qui possède sa propre mine d'or en sous-sol. Je croyais que c'était une région viticole. L'or de la nouvelle génération, lui assura Harold. Ah, voilà qui est intéressant. Vise-moi un peu ça. Kimberly se pencha obligeamment vers lui. Harold avait détaché plusieurs fragments végétaux verts de la chaussure boueuse et il plaçait le premier sur une lamelle pour le glisser sous son microscope. « Qu'est-ce que c'est ?» le relança Kimberly. « On dirait une feuille de laurier des montagnes écrasée. » Harold procéda à quelques réglages, puis retira la première lamelle pour la remplacer par une deuxième. « Et ça ressemble à du pin blanc. Il y a aussi des feuilles de chêne sèches, des résidus de hêtre. Ouais, je dirais que ton suspect a été dans la forêt de Chattahoochee, aucun doute. Un secteur avec beaucoup de feuillus et de conifères à feuillage persistant. Regarde, il y a même un peu de sapin du Canada. Ce serait un bon endroit pour dissimuler des corps. La forêt nationale de Chattahoochee ? Demanda Harold, toujours penché au-dessus du microscope. « Oui, nous pensons que cet individu a peut-être enlevé et tué 10 femmes, mais ce serait beaucoup plus simple si on pouvait localiser un corps. Peut-être que Chattahoochee sera un bon point de départ. » Sans parler du fait que Chattahoochee, de par son statut de forêt nationale, se trouvait sous l'autorité du FBI. « Si tu dois aller te promener là-bas, commenta distraitement Harold, je commencerai par commander une paire de limeurs. » Il en termina avec le microscope, retourna la chaussure. « Pourquoi ?»« Cette forêt couvre plus de 3000 hectares. »« Quoi ?» Je te disais qu'il y avait des randonnées sympas à faire dans cet état. « Putain !»« Attends, j'ai encore un cadeau pour toi. »« Pince ?» Kimberly fouilla rapidement dans son nécessaire, trouva les pinces. « Encore de l'or ?» demanda-t-elle pleine d'espoir. « Et pourquoi pas le permis de conduire d'une victime ?»« Mieux. »«
Mieux ?»«
Ouais. Vise-moi ça. »« Une mue d'araignée. » Kimberly réussit à joindre Sal au téléphone peu après 15 heures. Elle avait mangé 4 crèmes dessert et un petit pain au lait pour le déjeuner et elle sentait le sucre déferler en elle. « Donc j'ai discuté avec un type de chez Limerboot, » raconta-t-elle d'une traite. « Si on peut lui envoyer la chaussure, il se fera un plaisir de l'examiner pour nous. Il lui semble qu'il s'agit d'une de leurs chaussures d'alpinisme standard. On en trouve chez toute une série de détaillants aujourd'hui, et le 42 est la pointure la plus courante, donc ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais si c'était du sur-mesure, il ne le saura pas avant de l'avoir, il pourrait peut-être retrouver le nom. » Sal était loin de paraître aussi impressionné qu'il aurait dû. Dinekara a acheté une chaussure dans le New Hampshire ? Peut-être, ou par correspondance. L'important, c'est que c'est une chaussure de marche qui ne rigole pas, achetée en général par des randonneurs qui ne rigolent pas. Harold est convaincu que Dinekara a crapahuté dans la forêt nationale de Chattahoochee, de sorte que le périmètre de nos recherches passerait de tout l'état de Georgie à la bagatelle de 300 000 hectares. Sal grogna. « Bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» essaya encore Kimberly. Je me suis fait souffler dans les bronches par mon boss. Ah ah ! Klein a rejeté ma demande de former une cellule d'enquête. Il trouve que nous n'avons pas suffisamment démontré l'existence d'un crime. Mais les permis de conduire des femmes disparues sur ton pare-brise ? L'enregistrement du meurtre de Veronica Jones ? Aucune preuve à l'appui ? La conversation de Dinekara avec Ginny ? Merde, la façon dont Dinekara a traité Ginny ! Elle peut porter plainte quand elle veut. Oh merde ! Dit Kimberly, elle-même découragée à présent. Qu'est-ce qu'il attend de nous exactement ? Un cadavre ? Un témoin qui confirme ? D'autres éléments qui prouveraient que ces femmes ont bel et bien disparu et pas simplement déménagé. Mais c'est pour ça qu'il nous faut une équipe, pour aller chercher des confirmations sur le terrain. Ou tiens, pourquoi pas, retrouver un cadavre ? Je sais. Et pendant ce temps-là, Ginny Jones se promène toute seule sans protection après avoir mis en rogne Dinekara. Je sais. » Kimberly se renfrogna, se mordilla la lèvre inférieure. Il y a vraiment des jours où ce boulot fait chier. Je sais. Ils restèrent en silence un moment, puis Sal dit, à brûle-pourpoint, « Mon père faisait ça. » De filer des claques à ma mère. Rien de trop méchant jusqu'à la disparition de mon frère. Là, mon père s'est mis à boire beaucoup. Il tabassait ma mère et elle le laissait faire. Comme si tout ce qu'il y avait de dégueu dans la vie était vraiment de sa faute. Kimberly ne savait pas quoi dire. Je ne le supportais pas à l'époque et je ne le supporte toujours pas. Merde, je voudrais juste arrêter cet enfant de salaud. Sale, c'est rien. Juste une mauvaise journée, je m'en remettrai. Bon, reprit-il en s'éclaircissant la voix. J'ai trouvé la véritable adresse de Ginny en me servant de son immatriculation. Jackie est d'accord pour garder un œil sur elle ce soir. Je prendrai la soirée de demain, histoire de voir ce qui va se passer. Sal s'interrompit, attendant manifestement qu'elle se propose pour la troisième nuit. Kimberly tapota d'un doigt sur son bureau, songeant avec un sentiment de culpabilité à Mac, qui voulait qu'elle rentre à la maison pour discuter de changements majeurs dans leur vie. Et puis il y avait son père, et Rainey, qui avait fait tout ce chemin depuis l'Oregon. « Tu sais, souligna Sal, Dinekara est plutôt sur les nerfs. Un type comme ça, s'il juge qu'il court un risque, il ne va pas envoyer Ginny faire un tour à Disneyland. C'est nous qui lui avons posé le micro. Lui tourner le dos maintenant, il faut que je regarde mon agenda. Oui, évidemment, si tu dois te laver les cheveux. Oh, fais pas le con. Tout ce que j'en dis, je sais, je sais. Dinekara est cinglée, Ginny est vulnérable, les événements se bousculent. Pourquoi tu crois que j'ai passé tout l'après-midi penchée sur une chaussure de randonnée dégueulasse? On va finir par piger. D'ailleurs, on a déjà trouvé de l'or. Oh, et une mue d'araignée. Une quoi? Je ne te le fais pas dire. Ensuite, ce fut Mac qui appela. On dîne ensemble? Essaya-t-elle. J'ai promis des escalopes de poulet en sauce à Rainey. Elle fait les courses, papa se charge de l'anticholestérol. Impossible, je dois travailler tard. Mais tu adores les escalopes de poulet. Alors garde-moi une assiette. Il semblait déjà irrité. Kimberly se le tint pour dit et se tut. Mac n'ouvrit plus la bouche non plus. Le silence se prolongea. Une affaire compliquée? Osa finalement Kimberly. Tu sais ce que c'est? J'imagine. Ne m'attends pas pour dormir. J'imagine. On peut pas continuer comme ça, tu sais, dit-il tout à coup. Tu travailles tard. On se croise la nuit, à peine si on se fait la bise. Qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est la nôtre, souffla-t-elle. Il faut que quelque chose change. Je suis prête à en discuter quand tu veux. Ben voyons, maintenant que tu n'es plus occupée. Son ton ouvertement hostile la laissa interdite. Elle se referma sur elle-même, avec la sensation de s'être aventurée en terrain miné et de ne plus savoir comment avancer. « Eh merde, » dit Mac, « je suis fatiguée, c'est tout. » Et il lui raccrocha au nez. Lorsque son portable sonna à nouveau, elle le prit sans réfléchir. Elle pensait que c'était peut-être Sal avec d'autres nouvelles. Elle espérait que ce serait peut-être Mac avec des excuses. Au lieu de cela, elle eut du silence. Et là, elle sut. Elle s'adossa dans son siège, fouillant déjà dans sa veste pour retrouver son dictaphone. « Pourquoi ça ne vous intéresse pas ?» demanda la voix aiguë, métallique. Cette fois-ci, Kimberly crut percevoir une légère déformation, une pointe d'électronique. « Je vous écoute, » dit-elle en manipulant maladroitement le dictaphone pour enfin le poser sur le bureau et le mettre en marche. « Je croyais que ça vous intéresserait ?» reprit agressivement la voix qui passait par intermittence. « Feriez quelque chose ?»« On pourrait se rencontrer, » répondit-elle posément. « Discuter en face à face. Je veux vous aider. »« Ce n'est pas de ma faute. Viens dans mon salon, » dit l'araignée à la mouche, et elle y va. Elle y va. « Donnez-moi votre nom. Il me faut une adresse, un numéro de téléphone. » Je vous mettrai sur la liste des informateurs confidentiels. Nous serons les seuls à savoir. » Mais l'interlocuteur ne l'écoutait pas. Sa voix était devenue un gémissement aigu, comme furieux. « Pourquoi vous ne vous êtes pas donné plus de mal ? Vous nous avez oubliés. Vous nous avez abandonnés dans la toile. Maintenant, c'est votre tour. Il va vous attraper. Mais ça m'est égal. Je refuse de m'y intéresser. Ce n'est pas de ma faute. » Veronica Jones, dit-elle, tendue. Les autres femmes. Je sais ce qu'il a fait, mais j'ai besoin de preuves. Que fait-il d'elles ? Où cache-t-il les corps ? Si vous m'aidez à les retrouver, je peux faire en sorte que ça s'arrête. Mais la voix ne répondit pas. Kimberly entendit du silence, puis de la friture. Puis, alors qu'elle avait presque renoncé, « Je vais réussir mon examen de passage. » Elle hésita et tenta sa chance. « Comme Tommy Mark Evans, vous voulez dire ?»« Ce n'était pas de ma faute !» cria la voix. « Vous ne savez pas ce que c'est. Une fois qu'il a pris sa décision, il n'y a rien à faire. Alors rencontrez-moi. Expliquez-moi. Aidez-moi à vous aider. Non. » « Trop tard. Vous avez eu votre chance. Maintenant, c'est mon tour et je vais réussir mon examen de passage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vous tuer. Pardon ?» L'interlocuteur était agité à présent. « Quelqu'un m'aimait à une époque, il y a longtemps. Je voudrais me souvenir de son visage, mais elle a disparu maintenant. C'est tout ce qu'il me reste. » « Je veux survivre. Je veux réussir mon examen de passage. Je veux vous tuer. Laissez-moi vous aider. Faites vos adieux. » murmura la voix avant de raccrocher. La nuit tombait lorsque Kimberly quitta le bureau en fin de journée, prit l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, sortit vers le parking couvert. Il faisait une petite dizaine de degrés. Assez frais pour qu'elle contracte les épaules dans son manteau fauve, l'écharpe bien serrée autour du cou. Le calme régnait dans l'immense zone de bureau lorsqu'elle s'engagea sur le trottoir, le long du talus, un petit ruisseau à sa droite, le parking à sa gauche. Elle avait une main dans sa poche, fermée sur ses clés de voiture, la plus grosse coincée entre le pouce et l'index. Le vent chuchotait sur le petit monticule, chatouillait les cheveux de sa nuque, jouait avec le col relevé de son manteau. Elle se retourna pour scruter les lieux déserts, pressa le pas. Les ombres s'allongèrent, la poursuivirent dans le garage, jusqu'à la silhouette trapue de son break. Elle ne se détendit qu'après en avoir inspecté tout l'intérieur, banquette arrière et coffre compris. Même alors, en se glissant au volant, en refermant la portière, en actionnant toutes les serrures, elle sentit ses mains trembler. Bébé McCormack lui donna un petit coup sur le côté. « Ça va, bébé, » murmura-t-elle. « Tu es en sécurité. Tout va bien. » Mais elle ne savait plus très bien qui, du bébé ou d'elle-même, elle cherchait à rassurer.